Donc, commencer la séance.
Voilà. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir, non seulement le grand plaisir, d'écouter Christian Pelletier, que nous connaissons bien puisqu'il est membre du comité Aliénor. Non seulement membre du comité Aliénor, il est membre actif du cercle Aliénor
depuis une trentaine d'années.
Tu es sûr qu'il y a besoin du micro ?
Non. Si vous m'entendez suffisamment, voilà. Donc Christian est membre actif du cercle Aliénor depuis une trentaine d'années. C'est Serge Brindeau qui vous avait invité à y entrer, si je ne me trompe. Alors Christian, vous êtes professeur honoraire. Vous avez consacré une thèse universitaire à Max Jacob et qui a été le grand sujet non seulement de la thèse mais de toute votre vie puisque vous avez continué à parler de lui, à contribuer au rayonnement de son œuvre par des colloques, des publications et des conversations privées.
Mon épouse dit que c'est un ménage à trois, n'est-ce pas?
Voilà. Donc Max Jacob, qui dit Christian Pelletier, dit Max Jacob, mais dit aussi un grand intérêt pour d'autres poètes spiritualistes de tradition catholique. Alors je cite Henri Kefelec, Patrice de la Tour du Pin, Jean Grosjean, Jean-Claude Renard, et même, plus proche de nous, quelqu'un que nous connaissons bien, Elisabeth Launay-Doulet. Voilà. Eh bien, maintenant, je vous laisse la parole sur Georges Perros, puisque vous n'êtes pas si monomaniaque qu'on voudrait bien le dire.
Non.
Et voici donc Christian Pelletier sur Georges Perros, le Pilawer.
Bien, merci Béatrice. Bon, je suis content de vous retrouver. On est vraiment en petit comité, hein, il y a les Happy Few. Georges Perros, et j'ai intitulé la causerie le Piwer. Bon, je crois qu'on prononce Piwer, au moins dans mon coin breton, parce que vous savez, à 20 km près, c'est pas toujours le cas. Alors, je vais d'abord me permettre une petite anecdote, puisque ça fait 30 ans que je fais partie du cercle. Il se trouve que je passe en général ma période d'été dans un écart breton, en face de la mer, et de temps en temps, je descends tout de même quand même sustenté en ville. Et cet été, je suis rentré dans une boutique, vous savez, genre bric-à-brac, troc, où en général, je viens sans esprit préconçu et je repars avec une chaise en paille à 50 euros et un crucifix en onyx de 4 kilos. Vous voyez le genre. Et il y avait un coin de vieux bouquins, de bouquins usagés, etc. Et pour presque marquer l'entrée, il y avait un petit cadre, et dans le cadre, il y avait cette sentence « La vie rétrécit au lavage mental ». Je trouve que en période préélectorale et électorale, c'est tout à fait possible, je répète, « La vie rétrécit au lavage mental », signé Georges Perros. Alors je trouvais que c'était un signe au mois de juillet sur la bonne tenue, quelques mois plus tard, de notre causerie. Je vais commencer par vous lire, non pas un texte de Perros, mais un texte de Max Jacob, qui est extrait du Cornet AD, œuvre de recueil de poèmes en prose, publié à la fin de 1917. Je crois qu'il y a deux événements historiques très importants pour moi à la fin 1917, comme pour tout le monde, la révolution bolchévique et la publication du Cornet AD. Recueil de poèmes en prose, il habite Montmartre, à cette époque-là, l'une des rues, la rue Ravignan, et voilà ce qu'il dit de la rue Ravignan. « On ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve, disait le philosophe Héraclite. Pourtant, ce sont toujours les mêmes qui remontent. Aux mêmes heures, ils passent, gais ou tristes. Vous tous, passants de la rue Ravignan, je vous ai donné le nom des défunts de l'histoire. Voici Agamemnon. Voici Madame Anska. Ulysse est un laitier. Patrocle est au bas de la rue, qu'un pharaon est près de moi. Castor et Pollux sont les dames du cinquième. Mais toi, vieux chiffonnier, toi qui au férique matin viens enlever les débris encore vivants quand j'éteins ma bonne grosse lampe, toi que je ne connais pas, mystérieux et pauvre chiffonnier, toi chiffonnier, je t'ai nommé d'un nom célèbre et noble, je t'ai nommé Dostoïevski. Alors pourquoi ce texte de Mac Jacob? C'est parce qu'à plusieurs périodes, il va évoquer la figure du chiffonnier. Or, en breton, le piwer, c'est un chiffonnier. Alors, j'avais mis au départ, bon, c'est pas passé, mais Georges Perros, le quêteur, le collecteur, parce que bon, pour une moine germano-pratine, ça me paraissait mieux que chiffonnier, mais le terme de piwer, c'est chiffonnier. Donc, Perros le chiffonnier. C'est un personnage donc très important, jusqu'au pratiquement le chiffonnier au début du milieu du XXe. C'est un homme déluré. Et souvent, il parle français, dans un pays où on ne parle pas français, où on ne parle que breton. Il est ouvert dans une région de Thésée. Et il se trouve que Perros, c'est quelqu'un qui va s'attacher aux lambeaux, aux bris, aux débris, aux désuets, aux surannées, aux brimborions. Il va faire de tout ceci, de tous ces aspects de la vie, son miel. C'est pour ça que j'ai appelé la communication Perros le piwer. Le piwer, il bourlingue, il trie, il ramasse, il récupère, souvent sans but précis, au hasard de la rencontre, au cas où. Et le chiffonnier, lui, bien sûr, a un but mercantile. Alors qu'il récupère pour vendre. Perros, lui, est plutôt à rechercher du côté du clochard terrestre qui vire souvent au clochard céleste. Il va s'illustrer dans de très nombreux domaines. Le poème, bien sûr, et je crois qu'il a toute sa place dans la causerie cercle Aliénor, mais aussi dans le portrait, la correspondance. Il va avoir des conversations très très longues, des correspondances très suivies avec des gens prestigieux, connus pendant des décennies. Il écrit aussi des chroniques, parfois prestigieuses, et très souvent des formes ultra brèves. Le gnomique est souvent la forme de Perros. La vie rétrécie au lavage mental. Il est souvent quelqu'un qui va faire des moralités, mais sans désir réel de moralisation. Il a le goût du calembour, il a le goût du bon mot, sans exclure même parfois une certaine préciosité. Alors c'est tout le problème de ces auteurs, de ces artistes, qui sont, vous avez compris, extrêmement protéiformes. C'est qu'on a du mal lui donner une étiquette, et souvent malheureusement, est gênant pour les anthologies, etc. Il va également faire, on le verra, des comptes rendus d'ouvrages, de pièces de théâtre. Il va être lecteur au TNP, puis pour les éditions Gallimard. Il va même être traducteur, en particulier de Strindberg. Il a aujourd'hui l'image d'un homme de l'Ouest, mais d'un écrivain de Bretagne. Mais il ne revendique jamais sa bretonitude et, d'une manière générale, une identité régionale. Car à l'époque, il y avait souvent, à son époque, des séparatismes tonitruants, vous le savez, et ce n'est qu'assez tard qu'il va se fixer, à 35 ans seulement, qu'il se fixe dans l'ouest de la France. Il était né en 1923 à Paris, et il sera d'abord un homme de l'Est, Reims, puis Beaufort, pas très loin finalement de chez vous, Béatrice. En septembre 1939, ses parents le confient à un couple d'amis à Rennes. Il revient à Paris en 1941, au lycée Condorcet, qu'il abandonne à la fin de la classe de première. Donc il n'aura pas suivi un cursus académique classique, baccalauréat, éventuellement études supérieures, et cela va être quand même quelque chose d'un peu difficile pour sa carrière de vie. Il va se tourner un temps vers le théâtre. Il est reçu à la deuxième tentative au conservatoire et il va y passer 3 ans, de 1944 à 1947. Il va suivre les cours du conservatoire, dont il sortira avec un deuxième prix de comédie. Mais il essaie tout de même de pénétrer déjà dans le domaine des lettres. Il va frayer avec Isidore Isou, vous savez, le héros du mouvement lettriste, et il va essayer d'écrire à des écrivains connus, souvent les jeunes auteurs, ou ceux qui veulent faire littérature, Gilles Léconduit. Et Léoto, Paul Léoto, dont dit, vous savez, qu'il était sale de toutes les manières, peur entre ses chats et une certaine fragrance personnelle, Léoto va d'abord les conduire, mais ensuite il aura des contacts beaucoup plus fréquents avec Léo Tau. Voilà ce qu'écrit Léo Tau dans son journal. Grand plaisir de la façon dont j'ai répondu à une lettre pitoyable d'aplatissement moral, de vocabulaire nuageux, de manque de ressort, de pose presque romantique d'un jeune homme nommé Georges, élève au conservatoire dans la classe de Denis Dinès, en même temps ayant des visées littéraires, me demandant de me soumettre quelques aphorismes de sa composition. Je le répète, grand plaisir. Ces gens sont étonnants de vous entretenir de leur état d'âme et vouloir vous faire lire leur production. J'ai allumé ce matin mon feu avec sa lettre. Je le regrette, je l'aurai jointe au double de ma réponse. Léo Tau va quand même ensuite le recevoir. On reconnaît bien le style de Léo Tau, hein, qui était un personnage qui n'était pas facile. Et il va ensuite quand même le recevoir à plusieurs reprises. Alors au théâtre, malheureusement, cette vocation sera vite avortée. Il ne va jouer que des utilités, que des silhouettes, que des figurants, que des seconds. Et très vite, il va abandonner le théâtre. Il va noter, j'ai noté en 1950, en mars 1950, il joue le rôle de Don Ramir dans Le Soulier de Satin. C'est la seule scène, scène 6 de la troisième partie, où il apparaît quelques secondes avec Donna Isabelle. Alors, dans cette scène brève, je vais aller voir qu'est-ce qu'il jouait. Une scène, hein, troisième, sixième scène de la troisième partie. Don Ramir se plaint de ce que le vice-roi, qui vient de lui donner le gouvernement du Mexique, ne l'aime plus. Alors, c'est très bref, mais je vais voir qu'est-ce qu'il jouait. Alors, Don Ramir, Donna Isabelle. Hein. Don Ramir, s'il m'aimait, il ne m'éloignerait pas ainsi de sa personne. N'est-ce pas vous-même qui avez demandé le Mexique? Je vous l'ai laissé demander. Pourquoi me l'avez-vous laissé demander? Je vous l'ai laissé demander pour voir. Pour voir quoi? Le crédit dont vous jouissiez dans l'esprit de son Altesse. Accusez bien plutôt votre disposition jalouse et tourmentée, cette mélancolie qui vous fait taquiner et provoquer la chose même que vous redoutez le plus. Et si je prie ce texte, parce que je trouve que ce texte de Claudel, cette phrase de Claudel, cette mélancolie qui vous fait taquiner et provoquer la chose même que vous redoutez le plus, me semble tout à fait aller avec une certaine disposition de vie de Georges Perls. Il se tâte donc, il va bientôt abandonner le théâtre, il cherche à entrer comme journaliste au journal L'Équipe, mais voyez-vous, il y a plusieurs possibilités, n'est-ce pas, mais ça ne va pas, et il est recruté comme lecteur au TNP. Au TNP par Villard, car grâce à son grand ami, il a une correspondance très très longue avec Gérard Philippe. Avec Gérard Philippe, il a une correspondance très très longue pendant des dizaines d'années. Donc il entre au TNP comme lecteur, nous sommes en 1951, l'acteur s'éloigne, et vous l'avez compris, le lecteur et l'écrivain l'affirment. Jean Poyant le fait entrer à la NRF et c'est là qu'il y rencontrera de nombreuses personnalités avec lesquelles il aura amitié et, j'ai dit, correspondance très longue. Alors, quelques-uns. Brice Parrain, Michel Butor, qui était le parrain d'un de ses trois enfants, Michel Butor, Jean Poyant, Henri Thomas. Et il sera lecteur au TNP jusqu'en 1967, date à laquelle Wilson le congédiera d'une façon assez brusque et assez désagréable. Et alors, il va donc lire beaucoup, beaucoup de pièces de théâtre. Il va être prime sautier, ironique, assassin, vachard. Alors, j'ai consulté des centaines de jugements de Perros. Pratiquement, il sauve peut-être à moitié de pièces sur 150. Tout est mauvais. Et alors, vous allez voir, certains de ces jugements sont très cruels. Je vais vous donner quelques exemples de jugements de Perros, lecteur du TNP. Alors, il y a les initiales, on ne sait pas le nom des auteurs, il y a les initiales, il y a le titre de la pièce, et ensuite, en quelques mots, en quelques demi-phrases, assassine le jugement de Perros. Quelqu'un qui s'appelle PP, donc les initiales, la polonaise ou le bonheur des autres, et il écrit en dessous, ou le malheur du lecteur. Thank you. CT, la cabine dérangée. Il n'y a pas que la cabine, je vous prie de le croire. Là, on a le nom, Georges Loiseau. L'appel, A2PEL, l'appel de la gloire. L'appel, PE2LE, l'appel au tout au plus, et quelle poussière à ramasser. EM, l'escapade. Jules Renard, revu par Jules Souris. JP, Notre-Dame de Trèfle. C'est c'est la très intéressante histoire d'une voyante maquerelle, etc., etc., qu'on finit par étrangler. Beaucoup trop tard, à mon avis. CS, Harakiri, la pièce se le fait. JP, LP, voleur d'espérance, l'auteur en est un. AM, les frères ennemis, ils se battent à qui fuira la pièce. DB, je l'aime bien, c'est la Judas, une pièce de Judas. Oui, Judas, s'il avait su le nombre d'auteurs dramatiques qui s'occuperaient de lui, non, il n'aurait jamais trahi Jésus. Quelqu'un qui s'appelle Albert Espinasse. Est-ce qu'il y a parmi vous un cinéphile ou une cinéphile très pointue qui saurait à l'état civil qui est Albert Espinasse? Non, le nom civil, non. Ouais, ça peut arriver, il y a des gens qui sont très très pointus, hein, qui ont des velons dingues. Eh bien, c'est donc Pierre Brasseur. Pierre Brasseur qui écrivait, il a écrit pas mal de pièces, Albert Espinasse dit Pierre Brasseur. Et il a écrit une pièce qui s'appelle Les vieilles cornes, et il dit: cet Espinasse devrait bien se contenter de jouer la comédie des autres, il y réussit mieux. Bon, alors il faut dire qu'il y a eu quand même 5 pièces de Pierre Brasseur qui ont été jouées, mais pas celle-ci. Il y a eu des pièces, pardon.
C'est un excellent comédien, donc.
Oui, mais il le dit d'ailleurs, c'est un bon comédien, il a dû rester comédien. Et là, je crois qu'il a eu une pièce qui a été jouée, 5 pièces qui ont été jouées, Pierre Brasseur, mais pas celle-ci apparemment. Et il y a DC, pilule. Inavalable. Inavalable. Et alors, il a, pour une fois, pour finir, il a eu le flanc de citer quelques extraits d'une des dernières pièces qui s'appelle, dans un certain PS, Faust 60. Alors voilà, il cite le texte, donc quelques répliques. Voilà, je cite le texte. Ça se passe à Saint-Tropez. Mephisto. Ah, que font-elles? Angélique, malicieuse. Elle regarde de long en large. Mephisto, renchérissant. Et que disent-elles? Angélique. Ah, cet amour, Mephisto. Vous charriez? Il rit. Nous avons beaucoup d'esprit. Et il souligne, j'en ai moins. Donc voyez-vous, c'est un peu sympathique, mais en même temps, l'esprit très vachard de notre ami Perros. Il va également écrire des formes brèves, je l'ai dit, et des aphorismes, des sentences, des définitions. Il y a un lexique qu'il a fait publier dans les années 50 qui a été constitué. Alors il y a beaucoup de persiflage, beaucoup de sarcasme, d'acrimonie. Alors j'en ai pris beaucoup moins que pour les remarques sur le pièce théâtre, mais quelques lexiques que publie Perros dans les années 50. Ambulance. Il s'agit de sauver une personne à leur gare aux piétons bien portants. Champ, voire bouillard. Culture, ce qui reste quand la mémoire joue à cache-cache. Pas mal. Bouillard, champ, culture, ce qui reste quand la mémoire joue à cache-cache. Foi, Jésus n'avait pas la foi, étant Jésus, mais il la provoquait chez les autres. Relation, pour percer, il faut en avoir. Pour arriver, il faut en être une. Et celui-là que je préfère peut-être le plus, respect, pharmacie du dédain. Respect, pharmacie du dédain. Il disait, moins je mens, disait Perros, plus je rougis. Et il disait, le oui, clos, il écrit oui, O-U-I. Voilà donc un aspect de Perros, le lecteur et le lexique. C'est C'est à ce moment-là qu'il prend son nom de plume. Son nom à l'état civil, c'est Poulot. P-O-U-L-O-T, et il prend le nom de Péros. Alors, bon, j'ai lu que c'était parce qu'en breton, vous le savez peut-être, certains, Penadros, c'est le bout du chemin, et il passait enfant des vacances à Péros grec, à Péros. Donc, il paraît-il que c'est pour là qu'il aurait dit, on dit Péros, je sais pas, Péros grec. Il fait la connaissance d'une jeune russe qui a 30 ans, il a mis quand même en 53 30 ans, il va l'épouser, il aura 3 enfants, et il va quitter Paris, attiré par l'Ouest. Il va faire des sauts. Il va faire Dinan, il va se fixer un peu à Dinan, après il va se fixer à Saint-Malo, toujours sur sa mythologique motocyclette, il avait une motocyclette mythologique, un peu comme André-Pierre de Mandiargues dans son roman, et en 1958, il a 35 ans donc, il s'installe définitivement à Douarnenez, où il séjournait de temps en temps depuis quelques années, et il va entrer pleinement en littérature, il va être pleinement l'homme et de parole, l'homme du mot. Alors nos amis vont nous lire ce premier poème, Le Mot, qui est un poème, un sonnet, octosyllabe, forme très très codifiée, pour évoquer la puissance du mot.
C'est à prendre, c'est à laisser. Les deux ensemble, c'est assez. Que je vienne à vous par langage, l'homme fait silence avec l'âge. On ne dit que ce qu'il faut dire, mais le mot qui reste est le pire. Tout seul, il fait mille petits. Les psychiatres, quels appétits.
Bon.
C'est à prendre, c'est à laisser. Si je vous parle, c'est assez. N'attendez guère davantage. Le silence est mort dans la peau. Dites le moindre de vos mots. Sortez le faux de sa cage.
Ah, c'est intéressant ce thème. Merci de cette lecture très tonique, Jean-François. Donc, le mot qui reste est le pire. Tout, hein, il fait mille petits. Les psychiatres, quels appétits. Hein, il a cette distance par rapport au traitement des mots. Il est souvent donc sardonique, sarcastique, mais en même temps très très lucide. Donc, il va rendre hommage, hein, dans un poème assez long, mais on va voir un large extrait, à une personnalité qui s'appelle Rose Errée, et il va réfuter la magnificence qui s'entoure de son nom. Dans la nuit du 1er au 2 novembre 1903, un long cargo qui fait plus de 100 mètres s'aveugle dans la brume très très dense du Ras de Sein. Capitaine et 33 hommes, et ils vont, le phare de la jument n'existe pas encore en 1903, et ils s'égarent dans les récifs. Il y avait 14 marins, tous des Marseillais, qui quittent le navire sur un canot de sauvetage et errent dans le brouillard. Levé à 4 heures du matin, Rose Errée entend des cris. Et elle, c'est une bonne, qui ne parle que breton, bien sûr, placée dès l'âge de 8 ans, et elle se jette à l'eau. Les marins lui tendent une corde, elle monte à bord et les guide parmi les récifs, les sauvant. Les autres marins seront sauvés par le canot de Lampol, qui vient de l'île d'Ouessant. Et ça va avoir très grand retentissement. Le petit Parisien illustré va consacrer sa une, au sauvetage des marins par Rose Errée. Vous voyez un petit peu la coiffe blanche de Rose Errée, là, qui va, sinon je vais faire comme quand j'étais professeur, je vais faire passer le document, mais oui, ce sera plus simple. Vous ne découpez pas, vous n'écrivez pas dessus, vous lisez, n'est-ce pas? Bon, j'ai des souvenirs. Alors, donc je plaisante. Donc, effectivement, Rose Errée va sauver les marins. Et c'est le numéro du 22 novembre. Hein. Et on fait des cartes postales. Donc il y a un retentissement. D'ailleurs, c'est pas elle, des fois, sur les cartes postales. Et elle devient donc une personnalité importante. Et elle va, l'ancienne bonne va finir collecteuse de Guémont. Elle a d'ailleurs son père est mort en mer, ainsi que l'un de ses 3 frères. Alors, il va reprendre cette histoire, et il va en faire un poème. Mais ce n'est pas uniquement dans ce poème consacré à Rose Errée le fait qui est important pour Péros, c'est la façon dont on a traité, comme on dirait à notre époque, médiatiquement, n'est-ce pas, le fait. Allez-y, c'est le numéro Rosiery.
Une nuit en 1903, un vapeur marseillais, Vesper, se prit dans le nid de vipères que forment les rochers d'Ouessant. 14 d'entre ces marins parvinrent sur une chaloupe à se sauver, mais la furie les empêcha de débarquer. Une jeune fille, une Ilienne, elle s'appelait Rose Errée, entendit leurs cris de détresse comme elle allait vagabondant sur la falaise. Elle se laissa glisser jusque sur la grève, le granit est dur et sa jambe en fut vite ensanglantée. Jupe en l'air, mais quelle pudeur résisterait à cette quête que font les hommes quand leur vie ne tient plus qu'à celle de ceux qui vont les tirer de la mort. Elle rentra dans l'eau mauvaise, trébucha en voulant saisir la corde désespérée. Et la voilà, bouchon fragile. Un filin lancé la sauva, et la voilà dans la chaloupe conduisant les hommes au port. Dans l'île, sa voix retentit. L'air aura sculpté l'innocence de ce grand cri. « Ils sont sauvés !» qu'elle proféra en breton, car elle ignorait le français. On lui décerna des médailles. La presse dit son beau courage. On l'a reçue même en Sorbonne. La pauvre n'y comprenait rien. Elle est morte il y a 17 ans, près de sa vache et de ses poules. Un Allemand se servit d'elle pour écrire un très beau roman. Mais pourquoi l'avoir magnifiée ? C'était une clocharde errant sans qu'aucun amour lui rappelle que l'être humain peut être aimé par autre chose que le vent. Puis, à toi, par-dessus la terre, Rose Errée, fille de brume dans ton cimetière d'Ouessant.
Voilà, ce qui est intéressant, c'est la fin du... Merci, cette très belle lecture. C'est intéressant, c'est que ne souscrit pas totalement au mythe, n'est-ce pas? C'est cette fin qui est si vraie, finalement, à notre... C'est pas neuf, mais à notre période actuelle, c'est une posture très intéressante, parce que c'est tout à fait typique. Et d'ailleurs, il y a eu des gens qui ont été interrogés, qui l'avaient bien connu dans les années 60, et ils disaient que c'était... Eh bien, un vieil Ilien, elle meurt même en 45 à 83 ans, donc assez âgée, mais il disait que c'était une femme très fruste, qu'il faisait peur aux enfants, et que ce fait divers largement exploité, le personnage devient vampirisé par les médias, ici le journal, les cartes postales, et on lui confère les grâces, des vertus héroïques, la beauté même, tel un héros grec, ce que dénonce très bien, dans sa réalité très lucide, Georges Perros. Ses œuvres, alors il a plus le plus connu, c'est les papiers collés. Papier collé 1960, il y a un papier collé 2, 73, et un posthume, papier collé 3, 1978. Alors c'est exactement l'exact opposé de nos actuels copier-coller. Les papiers collés, ce sont effectivement des morceaux de vie. Alors il faut savoir, il est moins révolutionnaire que révolté, n'est-ce pas, Perros? Moins révolté que Cabochard. Il est tout de même breton d'adoption, donc il est un peu Cabochard. Hein. Il est moins engagé que dégagé, aux diverses acceptions du terme. Il est, c'est une formule, alors je prends un article que j'ai publié récemment, hein, sur Georges Perros à Les Lignes, là, ce sont des articles que j'ai publiés sur Georges Perros. Je crois qu'il est un funambule du langage, c'est certain, moult facettes, mais un funambule dont le regard reste rivé vers le sol, et je crois que la performance n'en est que plus remarquable. Il est en marge, littérairement, socialement, mais par exemple chez lui, il n'y a pas d'athéisme radical, il n'y a pas d'anticléricalisme ou d'anti-militarisme militant. Il n'est pas le chantre de la cause bretonne, par exemple. Il est à la fois contre une certaine marginalité, et en même temps, il l'assume et la revendique pleinement. Il a une formule que j'aime bien. Alors, je sais bien qu'à notre époque, où beaucoup de gens cherchent du travail, ça peut paraître un luxe de dire ça, mais il refuse absolument 40 années de bureau forcé. 40 années de bureau forcé. Au début de 1976, la revue Bretagne publie les réponses à un questionnaire sur la littérature bretonne adressé à quelques écrivains du cru assez connus à l'époque, Xavier Gral, Marcal, et Perros ne répond que très partiellement à l'enquête. Il se défie beaucoup des revendications identitaires sous-tendues. On n'est quand même pas très très loin de mai 68. Et à ce propos, il va être extrêmement modéré. Une petite incise, Vous savez qu'à notre époque, le drapeau breton, c'est le fameux drapeau avec le drapeau Hermine, avec des bandes, qui est d'ailleurs inspiré du drapeau américain. C'est ce qu'on appelle en breton le Gwen Adu, c'est peut-être blanc et noir. Ah, il est blanc et noir. On le voit partout maintenant. Hein. Il n'y a pas un meeting, il n'y a pas un match de sportif au bout du monde. Il y a toujours un Gwen Adu qui traîne. Bon. Vous le savez peut-être, ça n'apprend peut-être pas grand-chose à certains de nos amis qui connaissent bien la Bretagne, l'Ouest, les Celtes. Après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, il était inexistant. Il a vraiment surgi et s'est imposé, en gros, avec la régionalisation dans les années 70. Maintenant, il trône avec le drapeau français, très généralement, le drapeau européen, hein, comme dans toutes les régions, le citoyen, etc. Or, savez-vous que, finalement, c'est intéressant parce que ce Gwen Adu, il a été créé par un avocat rennais, de Rennes, qui a été frappé d'indignité nationale pendant des années et des années pour collaboration avec l'ennemi, avec les nazis. Il s'appelait Marshall. Je l'ai peut-être dit une fois, vous m'avez dit, aucun rapport, je sais. Il s'appelait Marshall. Bon, mais il est parfois des personnages qui ont l'origine de fait, qui ont une tâche indélébile, et apparemment, on a. Mais ces gens-là, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils espéraient finalement avoir une région bretonne qui surtout fasse pièce au jacobinisme, et ils espéraient follement, c'est une des raisons pour laquelle il y a eu beaucoup de gens qui ont espéré traiter avec les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors Perros va répondre d'emblée à ceci au niveau des attaches bretonnes. Je ne sais pas s'il existe une littérature en Bretagne. Donc il ne s'est jamais considéré vraiment comme un écrivain breton. Alors, il va écrire, on l'a dit, beaucoup d'œuvres, des romans, nouvelles, recueils de poésie, des portraits, des lettres, des notes, beaucoup de notules, avec les nuances de l'aphorisme, de la sentence, de l'adage, le trait, et même parfois les calembours, et on l'a dit, une certaine prisolité. Alors j'ai pris quelques perles là que j'ai trouvées intéressantes sur notre société en 2021 qui peuvent s'appliquer sur l'amour, la politique, la religion. Alors, l'amour. La femme amoureuse n'a plus de passé. Alors, selon vos expériences personnelles, vous pourrez penser que c'est vrai ou pas. La haine, c'est la politique. Faire de la politique, c'est déposer son caca quotidien sur le pauvre crâne des citoyens. Bon, là, on est un peu plus d'accord, hein, vu la période actuelle. Et puis, celle-ci, que je trouve très intéressante, nous avons des siècles de notre père qui êtes aux cieux sur le dos. Si nous changions un peu de disque, notre frère qui est sur terre, par exemple. Voilà le message de... Alors, il va à 35 ans s'installer à Douarnenez. Il va vivre très chichement, mais vraiment très chichement, hein, au bord vraiment de l'indigence. Il a 3 enfants, sa femme, il n'a pas vraiment de métier salarié, des petits boulots, comme on dirait maintenant. Le maire de Douarnenez, je crois, l'a patronné pour qu'il obtienne un HLM dans les confins de la ville de Douarnenez. Alors, il y a un moment, il va être au Télégramme de Brest, qui est l'un des 2 grands journaux avec Ouest France, Télégramme de Brest. Il va assurer le quotidien sportif, il va assurer la retransmission, enfin le récit des matchs, de petits matchs de football, n'est-ce pas? Et il est très dommage, désargenté par exemple, il refuse obstinément d'écrire dans l'Idiot international parce que c'est trop bien payé. Il obtient le prix Mac Jacob, qui est un prix important de poésie, qui est financé à l'époque par Florence Gould, et il n'a pas cherché son prix, 5000 francs, hein, ça m'appelait ça à l'époque, et parce que bah, c'est l'argent. Il oublie de signer un contrat proposé par Gallimard, à l'initiative de Jean Pouillon. Mais bon, il s'assume dans sa marginalité, tout à fait étonnant. Alors, ses expériences de journaliste sportif, on va lire un ou deux textes de journaliste sportif. Il fait l'acquisition très très tardive de la télévision sur la pression de sa famille, parce qu'il ne s'amusait pas trop, il faisait quand même la télévision. Et il va rédiger des notes, en particulier sur le football et le cyclisme, qui vont paraître régulièrement à la fin des années 70, dans la NRF. Dans la NRF, il y aura des notules, des notes sur le football et le cyclisme. Alors, dans une rubrique qui s'appelle Télénote. Alors, j'ai un texte, je crois, qu'on va lire, je pense, sur le football, où il s'intéresse à un certain esthétisme du football. Quelques noms peut-être qui rappelleront des noms des années 50, de grands joueurs pour les gens d'âge qui sont là autour de moi.
Qui s'intéresse au foot.
Football pour les initiés.
Je t'en suis.
Ah bah oui, il faut s'ouvrir aux autres.
Partage.
Oui, oui.
Quand tout le monde joue bien, y compris les arbitres, le public, la balle est heureuse. Pas de grands coups de botte qui lui font mal. L'envoie valser dans les tribunes. Elle chante, on l'entend. Elle fredonne la mélodie que tissent ses méandres, ses allées et venues d'un pied, d'une tête à l'autre. Elle croque du gazon avec gourmandise. Ballet. Le stade entier ronronne de plaisir. C'est la fête. Rarissime. Je n'ai éprouvé cette sensation des visous qu'avec l'équipe de Reims, celle de Coppa, Piantoni, Fontaine, Jonquet, celle de Honvéd, incomparable avec Puskas, Coxis, le Brésil de Pelé, Garnacha, le Real de Di Stefano, et bien avant la guerre, de quoi faire plaisir à Jules Stéphan, avec le Socho d'Ablegun, Duhard, Courtois, Di Lorto, au stade Bonal. Oui, Saint-Étienne, c'est plutôt à l'arraché, à l'énergie, malgré la finesse de son capitaine Larquet. Mais il y a beaucoup à attendre du Nantes, nouvelle cuvée. Une pensée pour Arribas.
Nous sommes à la fin des années 70. Voilà. Alors, il y a un autre texte, je crois qu'il est un peu long. Si vous voulez, vous pouvez l'abréger parce qu'il est un peu long, le texte sur le cyclisme. Oui, quand vous en avez assez, bah, vous arrêtez, Colette.
Ah ouais.
En toute autonomie, voilà. Et parce que vous n'êtes pas spécialiste non plus.
Ah, bon, vraiment, non.
Bah, non, mais il faut s'ouvrir aux autres, n'est-ce pas? Mais donc, vous lisez quelques lignes sur le cyclisme. Mais vraiment, des noms, peut-être que vous n'avez pas connu dans les années. Ouais.
Avez-vous déjà assisté à une course cycliste? À ce déferlement de motos, de voitures à haut hurleur, la caravane publicitaire, et toutes les 10-15 minutes, s'il s'agit d'un circuit, d'un critérium, genre après Tour de France, au passage d'un troupeau chamarré, de dos voûté qui défile à belle allure dans un bruit métalliquement soyeux, à peine si vous avez le temps de repérer le dossard d'un de vos héros du jour, hop, fut, c'est fini. Vous pouvez vous rasseoir dans l'herbe au milieu des milliers de paperasses, déchets, bouteilles. Cela tient de la kermesse, du cirque ambulant. Et c'est bien d'un cirque qu'il s'agit, avec ou peu s'en faut toujours les mêmes acteurs, vedettes ou figurants, qui se retrouvent périodiquement en quête de gains, de primes, de gloire. En fait, la plupart jouent les utilités, les faire valoir, les gros bras, grosses jambes qui parcourent une partie du monde, d'un avion à l'autre. J'avoue qu'on peut se laisser emporter par cette liesse populeuse. Et ce n'est pas moi qui mettrai en doute le plaisir qui peuvent y prendre les hommes aussi subtils, intelligents qu'Antoine Blondin, par exemple, ou certains journalistes de mes amis. Mais je n'ai jamais vécu ce genre de spectacle sans, en retournant dans mes pénates, éprouver une légère fatigue, un sourd dégoût, toute originelle ferveur retombée. Oui, finalement, je m'en remets mal, comme si l'absurdité de la situation, voir pédaler nos semblables le temps d'un cri, avait poussé sa pointe un peu au-delà du supportable. Qui donc sont ces semblables ? N'allez pas, simples citoyens, leur demander. Ils vous enverront-ils un bout de programme déchiré, timidement présenté. Ainsi, mon fils aîné est-il très fier d'avoir déniché deux loups flamands, Van Springel et Godefroot, vous connaissez, dans un bistrot, après course, et de leur avoir extorqué un autographe, ou plutôt un cyclographe, en l'occurrence. J'en ai fait autant à mon âge, ça me revient. C'était à Mons. Oh, Verlaine.
Merci. Bah, merci. Donc il n'y a pas que les spectacles sportifs, parce que donc il va après la radio qu'il écoute toute la journée, ce sera d'ailleurs un lien, on en parlera rapidement tout à l'heure avec Armand Robin, eh bien il va acquérir une télévision, je l'ai dit, sous la pression de sa famille qui ne pouvait pas s'amuser tous les jours, n'est-ce pas, donc il va faire des notes pour la NRF sur d'autres spectacles, c'est-à-dire les débats politiques. Et souvent, ça l'agace, ses imprécations, ses sarcasmes, ses saillies. Alors André Glucksmann, le philosophe, lui plaît bien. Mais les nouveaux philosophes l'accablent. Ils pointent leur érudition, le pouvoir de digestion de leur érudition et de leur connaissance. Ils savent tout. Je cite Perros. Quel estomac! Avouez qu'il n'est pas donné à tout le monde de se bouffer le nez à coups d'Héraclite, Platon, Marx, Lacan, Deleuze. Remarquez, en 2021, j'ajouterais, ce serait plutôt à coups de sondage, de statistiques, de pourcentage, logarithme. Je ne suis pas sûr que nous ayons fait finalement un progrès qualitatif. Bien. Parfois, ils stigmatisent leur impavide capacité à retourner leur veste idéologique lorsque la réalité s'impose à eux au lendemain des cuites idéologiques. Ils opposent la tragique dignité d'un déporté survivant sur le plateau à ces jeunes intellectuels pleins de morgue qui ont connu la vie et la guerre par oui dire. Constat qui peut, je crois, être tout à fait prémonitoire pour notre époque. Et il réprouve cette formule de Perros, la kermesse des cortex à la télévision. La kermesse des cortex. Ces critiques, je cite Perros, un peu inquiétants, qui souvent parlent des œuvres des autres comme s'ils les avaient faites de l'intérieur, ce que j'appelle la critique d'annexion, avec cette divination stupéfiante de la femme amoureuse qui comprend tout de l'homme sauf l'érection. Voilà, c'est du Perros. On ne s'attend pas à la fin, mais voilà, la femme amoureuse comprend tout de l'homme sauf l'érection. C'est du Perros. La gent féminine lui inspire quelques sentences apparemment humoristique et paradoxal. Alors c'est vrai que tout le monde dit je vais résister à l'ambiance actuelle. J'ai pas totalement résisté et je me suis un peu autant censuré, ou j'ai autant censuré Perros sur certains textes parce que j'avais vraiment peur de déchaîner des passions. Et je vais donc tout de même citer quelques remarques, sentences de Perros sur la femme. Ah non, mais bon, j'ai identifié depuis 30 ans quelques personnalités, mais elles ne sont pas là ce soir. Donc, ma seule et folle misogynie, je ne pardonne pas aux femmes d'aimer les hommes. Je ne peux pas sacrifier toutes les femmes que je n'ai pas à celles qui m'auront. Il a des paroles très rares sur la femme et sur l'érotisme. Et en particulier, une formule dont vous n'avez jamais entendu parler, sur l'érotisme breton. C'est pas une formule tellement habituelle, l'érotisme breton. Bon, d'habitude, hein, c'est une plage du Sud. Hein, on est plutôt sur une plage à faire amour avec Mireille, plus qu'avec Morgane. Hein, nous sommes d'accord. Bon, eh bien... Perros va casser les préjugés, il casse les catégories, les mythiennes ou pas, et ceci est donc rare et exceptionnel, vous allez entendre. Alors, je vais vous lire donc ce qu'il dit sur la jeune fille bretonne. Il y a chez la jeune fille bretonne quelque chose de terriblement vierge et terriblement putain. Ce n'est pas incompatible. Cette combinaison de grâce marine et de pudeur provocante laisse l'homme dans un état rien moins que rêveur. L'air est soudain chargé d'érotisme élémentaire. L'odeur nauséabonde du port, mariée à celle exaltante qui vient du large, décrète je sais quelle confrontation entre le bien et le mal, vu d'ici, qui, toute affaire cessante, doit s'épanouir en beauté. Deux corps ensemble, dans le flux et le reflux de l'amour, oui, cela doit vouloir dire que la vie est éternelle, quoique précaire en chacun. Que la mer et le ciel retiennent ces gestes désordonnés pour les rendre à l'ordre immuable des choses vivantes. Bon, c'est quand même assez. C'est vrai que l'érotisme breton, hein, en général, je sais pas, au sud de Saint-Jean-de-Mont, ça doit être quand même difficile, 46 degrés, 47. Mais là, donc, nous avons une formule de Perros. L'œil d'acier bleu clair, farouche, l'œil velouté noir, l'œil bleu blond normand, un peu vache, l'œil délavé nordique, les fesses nordiques. La Bretagne fait l'amour avec la mer, lui fait honneur, échange douloureux, difficile. La terre attend la mer, non comme une fin de non-recevoir, falaises anglaises, pas de Calais, mais l'une donnant et retirant à l'autre les derniers dés de l'immense jeu. La terre sans mer trompe l'homme, provoque l'esprit. La mer est, sur notre pauvre terre torturée, le monument par excellence, l'éternité musclée, l'irrationnel pur, irrêvé. Voilà, se forme sur la mer et la terre au sein de l'érotisme pérosien. Dans les années 50, il n'a pas été gaulliste, il n'a pas été communiste. Et vous savez que souvent, après la guerre, hors des opinions gaullistes et communistes, pas trop de salut. Il fallait presque mieux être péténiste, je dirais, recyclé, ou collaborateur recyclé. Les exemples, ah bon. Et il n'est pas marxiste, il n'est même pas socialiste, il se défie des gens qui ont toujours le mot « révolution » à la bouche. Il n'est pas un militant de la cause bretonne. Il est moraliste, mais sans y toucher. Il appartient à aucun groupe, aucun cercle, aucun courant de pensée, aucune coterie. Il n'est pas fait réellement d'études, j'ai dit, il n'a pas vraiment des fameux sacro-saints diplômes. C'est dur de percer comme il dit. Il va avoir une très longue amitié avec quelqu'un que j'aime bien, qui est un poète breton, Lucien Maudit, qui est mort dans des circonstances terribles, ramassé par police secours, bien nommé, il est mort à l'infirmerie du dépôt, on n'a jamais su, Armand Robin.
Ah oui.
Bon. Alors, pour le plaisir, 30 ans de cercle, ça me donne quelques privilèges, je vais vous lire, même si ce n'est pas du Péros, un texte d'Armand Robin, ouais, qui, à mon sens, devrait figurer dans les anthologies. Alors, il est lucide. Et, vous savez, moi, je suis une génération après la guerre, seconde guerre mondiale. Il se trouve que on avait la rose et le réséda. C'était pour poème, mais c'était positif. Hein, celui qui croyait au ciel, c'était la résistance. C'était pas gaulliste, pas communiste. Ce qui est le cas de Robin. C'est difficile. Mais je veux dire, ce texte de...
Non, mais c'est difficile. Tous les libertaires...
Mais ils ont du mal. Ils ne sont pas dans les anthologies. Hein, bon. Ce texte de Robin que j'aime beaucoup. Le programme en quelques siècles. Et nous sommes 2021. Le texte est de 52. On supprimera la foi au nom de la lumière. Puis on supprimera la lumière. On supprimera l'âme au nom de la raison. Puis on supprimera la raison. On supprimera la charité au nom de la justice. Puis on supprimera la justice. On supprimera l'amour au nom de la fraternité. Puis on supprimera la fraternité. On supprimera l'esprit de vérité au nom de l'esprit critique. Puis on supprimera l'esprit critique. On supprimera le sens du mot au nom du sens des mots. Puis on supprimera le sens du mot. On supprimera le sublime au nom de l'art. Puis on supprimera l'art. On supprimera les écrits au nom des commentaires. Puis on supprimera les commentaires. On supprimera le saint au nom du génie. Puis on supprimera le génie. On supprimera le prophète au nom du poète. Puis on supprimera le poète. On supprimera les hommes du feu au nom des éclairés. Puis on supprimera les éclairés. On supprimera l'esprit au nom de la matière. Puis on supprimera la matière. Au nom du rien, on supprimera l'homme. On supprimera le nom de l'homme. Il n'y aura plus de nom. Nous y sommes. 1952. Voilà le texte pour me faire le plaisir et en résonance avec les postures de Péros, le très beau texte d'Armand Robin. Comme il n'a pas trop d'argent, etc., parfois, on va essayer de lui faire gagner un peu d'argent. Alors, on lui fait faire dessiner pour une fête, un beau dessin pour la fête des mouettes à Douarnenez. Et à un moment, on va l'embaucher, comme on dit à notre époque, intervenant extérieur au lycée, s'il a fait du théâtre. Donc, pour la fête de fin d'année, il y a des jeunes filles, des jeunes garçons qui préparent une représentation d'un auteur connu, d'un auteur extrêmement classique, Molière, et il s'agit de l'école des femmes. Alors on dit, il va y avoir une petite pige là pour faire l'école des femmes. Alors je vous rappelle que, bon, tout le monde a lu l'école des femmes, peut-être pas hier, que Arnolf a pris sa jeune pupille parce qu'il espère Agnès, une fois qu'elle sera un peu plus mûre, l'épouser. Il la garde pour lui. Et elle, qui ne connaît rien à la vie, toute naïve, elle ne voit pas Merlis, a raconté bien sûr à Arnolf qu'elle a vu un beau jeune homme et qu'il lui a pris quelque chose. Et il m'a quoi pris le plaît-il? Je n'ose. Eh, vous fâcherez peut-être contre moi. Non. Si fait, mon Dieu, non. J'aurai donc colère, ma foi, soit. Il m'a pris. Vous serez en colère. Non. Si. Non, non, non. Dian, que de mystère. Qu'est-ce qu'il vous a pris? Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. Voilà. Donc l'histoire de l'hymen, ruban, ruban, hymen. Et alors, à Douarnenez, au lycée de Douarnenez, sous l'égide de Péros, il va nous raconter ceci. C'est correct.
Il y avait un autre texte avant.
Je l'ai oublié.
Vous avez oublié le 5.
Non, c'est le 6.
Ça, c'est le 6. Le théâtre, c'est le 6, mais le 5, il y avait l'humain. L'humain.
Ah oui, on le fera après, oui, excuse-moi.
Voilà,
bon, on fera après. Oui, vous avez raison, c'est moi. Vous savez,
on m'avait gentiment demandé, dans le bled où je respire, de m'occuper des gosses du lycée. En quelque sorte, luxueusement. De leur faire dire des textes. Bref, un peu de théâtre. Goutte d'âme. J'ai été très prudent. Le misanthrope, l'avare, l'école des femmes. J'avais fait apprendre le rôle d'Agnès à une jeune fille qui n'avait certes pas bronché à la lecture de la pièce, les audaces de Molière lui paraissant plutôt éculées. C'est trop dire, elle n'y voyait que du feu. Alors on travaille, le petit chat est mort, tout se passe bien, elle arrive à comprendre à peu près ce qu'elle dit. Ça mène un jour le proviseur. « Ah, il paraît que vous apprenez une scène de l'école des femmes à une jeune fille. » Il y a dans cette scène un le, pas question d'interpréter cela. Ayez l'amabilité de la supprimer pour la petite fête du lycée. J'ai tout supprimé, moi inclus.
Voilà, il est parti. C'est intéressant sur les mœurs et les postures de la Bretagne, la province. Nous sommes dans les fin des années 70. Hein. Bon, alors, dans une anecdote, il se trouve que à Quimper, où était Mac Jacob, il y avait un collège qui n'avait pas de nom. Quelqu'un connaît Quimper, non, non.
Oui.
Oui, il y avait un collège qui n'avait pas de nom. Et il se trouve qu'il m'avait convié, il y a longtemps, à l'inauguration du collège. Alors je vais au collège Mac Jacob, je dis causerie, etc. Et quelques années après, j'apprends avec ravissement qu'il y avait eu la Maison pour tous, qui, dans un partenariat avec le collège de Mac Jacob de Quimper, avait fait une fête de fin d'année. Et ils avaient demandé à une troupe italienne, qui s'appelle Clifton Circus, qui est une troupe italienne, de venir. Et alors vous imaginez, il y avait plusieurs centaines d'élèves, fin du mois de juin à Quimper. La troupe Clifton Circus qui arrive, pour vous dire l'évolution des mœurs tout de même, mais qui commence à acheter des cigarettes aux élèves, y compris les sixièmes, qui sortent une poupée gonflable. Le Père Noël, il commence à boire avec ses assistants. C'était une pièce qui était vraiment montée. Et quand il y a eu un acteur nu qui se baladait, la proviseur a dit non, on arrête. Ça a fait un scandale dans Landerneau. C'était quand même plus chaud que notre ami Péros. Mais c'était en 2011, ce que je raconte. Les mœurs avaient quand même une trentaine d'années plus tard évolué. Mais enfin, on est arrêté quand même à l'homme nu, là, c'est plus possible. Ça, moi, je trouve que ça m'a vraiment ravi, parce que là où est Mac Jacob, il en aurait fait un nouveau poème en prose, c'est extraordinaire, au collège Mac Jacob, la poupée gonflable et tout le reste. Il s'intègre en Bretagne, il aime bien les Bretons, et j'aime beaucoup ce texte, va nous lire François. Vous allez voir, la Bretagne, c'est pas toujours facile, hein, la réalité quotidienne, comme dans toutes les régions françaises. Allez-y.
Hier soir, je buvais un verre au zinc d'un café. À côté de moi, deux jeunes pêcheurs. L'un d'eux m'interpelle. Il n'était pas fermé le tabac aujourd'hui? Le tabac? Oui, dans la rue, là? Ah non, parce que l'autre jour il l'était. Tiens. Beaucoup d'accidents aujourd'hui? Ah oui, à Audierne, le gars qui a une Versailles sur la place, il y a un mort. Il me regardait l'air gouailleur, me déshabillait, détaillait mes mains. Tenez, regardez mes mains. On dirait qu'elles sont sales, hein? C'est l'aviron. Oui, c'est l'aviron, un peu suffoqué. C'est dur ? Oui, c'est dur. C'est des mains de travailleurs, ça. Pas de fainéant. Oui. Vous prenez un verre ? Non, merci, j'ai assez bu. Vous prenez un verre ou vous n'êtes pas français ? Bon, vous n'êtes pas d'ici. L'air méprisant, non ? D'où ? De Paris ? Ah, je connais Paris, moi. Dans quel arrondissement ? Je suis né dans le 17e. Le 17e, alors vous connaissez sûrement ma cousine, qui tient un magasin de coiffure rue de Tocqueville. Non, je ne vois pas. Vous êtes de la police, hein ? Moi ? Oui, vous ? Allez, on ne me la fait pas, je suis pas un bleu. Quelle drôle d'idée. J'ai une gueule à être de la police ? Oui, oui, mon gars, avec moi, ça prend pas. Bon, comme vous voudrez, mais vous vous trompez. Ça va, mon gars. J'en ai assez vu, on ne me la fait pas. Il m'a même demandé mes papiers. Là-dessus arrive un copain de monsieur, parlote en breton, rire. Il me montre du doigt, l'autre s'approche, m'ôte la pipe de la bouche et la fume. J'étais entouré d'une soudaine haine, prise de boisson. T'as vu ses mains ? Il doit rien foutre, celui-là. Je me sentais plutôt mal à l'aise. On le serait à moins. Quoi, vous voulez que je me les coupe ? Je n'y peux rien. Rire gras, vineux, horrible. Et à nouveau l'offre d'un verre, dans l'intention évidente de me saouler. Il sortait des billets de 1000 de son portefeuille avec fierté. Puis ils sont partis au bal. La patronne s'est empressée de me dire qu'il n'était pas méchant, seulement méfiant. Je suis rentré vaguement triste avec les mains dans les poches. Quel drôle de monde.
Je trouve que c'est extrêmement intéressant. Je trouve que bon, la littérature est parfois, c'est mon idée, un peu parfois supérieure à la sociologie, aux enquêtes, quand on voit ces tranches de vie, n'est-ce pas, qui rendent cause aussi. Début 1976, je rappelle qu'il est né en 23, on lui trouve des cellules cancéreuses dans la gorge. Il subit une laryngectomie à l'hôpital Laennec à Paris. Il va perdre la parole. Il va perdre la parole. Il ne veut pas être rééduqué. Il va rédiger des notes d'hôpital qui vont être publiées sous un titre qui est vraiment tristement génial. C'est notes d'hôpital, l'ardoise magique. Vous savez, l'ardoise, c'est un titre très, très dur, mais génial, l'ardoise magique. Il suit un traitement à Marseille en 1976 à la bombe au cobalt, traitement qui l'affaiblit beaucoup, et il va être hospitalisé fin décembre 1977 à Laennec de nouveau. Une intervention aura lieu en janvier 1978, il a 55 ans, à laquelle il ne survit pas. Il meurt à 55 ans à l'hôpital. Il va être enterré, inhumé au cimetière marin de Douarnenez. Si vous cherchez sa tombe, c'est donc pas sous le nom de Perros, mais de Poulot, hein, son nom d'état civil. J'ai une vieille amie qui l'a très bien connue. Je lui ai téléphoné ce matin, elle va avoir 97 ans dans quelques jours. Et elle m'a dit deux choses. Elle m'a dit qu'à l'enterrement de Perros, Xavier Graal a fait un très très beau poème qu'il a intitulé « L'ode brisée ». Et il avait vu ce cimetière marin, ce cimetière à Douarnenez, très beau Douarnenez, et qui se donne sur la mer donc, et il a dit « Il faudrait être enterré là ». Il a dit « Pourquoi ?» Et il m'a dit, il aurait répondu, m'a dit cette vieille amie qu'il a bien connue, « Parce que si on m'enterre là, au fil des siècles, je glisserai dans la mer. » Ce qui est vrai. Hein, au fil des siècles, je glisserai dans la mer. Il y a d'ailleurs à quelques mètres de ce cimetière, à Douarnenez-Tréboul plus exactement, une maison où Marc Jacob passait pas mal de temps avec un de ses jeunes amis peintres qui s'est suicidé pour lui plus ou moins d'amour à l'âge de 30 ans, un anglais. Et il y a un buste de Marc Jacob bicéphale, c'est-à-dire Marc Jacob avec le monocle, le dandy, et Marc Jacob plus ou moins avec la bure du moine, n'a jamais été moine, mais enfin quand il est devenu catholique. Et il se trouve que Georges Perros a consacré une belle page dans ses papiers collés, qui ont été publiés, donc les papiers collés 3 en 1978, de manière costume, à Marc Jacob. Bon, c'est un peu long, vous voyez vous aussi, si vous voulez lire. C'est donc un extrait, la lecture numéro 7 à Marc Jacob.
Juste un extrait.
Un extrait, allez-y.
Nous jouons une comédie. Nous sommes tous les bouffons d'un roi qui fait exemplairement acte d'absence. On pourrait même lui reprocher un excès de discrétion. dans cette pièce énorme que nous interprétons avec plus ou moins de bonheur, il y a les grands rôles que voilent généralement leur esprit même. Les comparses, les confidents, les silhouettes, les figurants, les utilités, termes horribles employés dans l'horrible comédie française. Tout le monde est concerné par le texte puisque tout le monde a, devrait avoir la parole. Peu parviennent à en donner une version originale par paresse ou par superstition. Max Jacob a été de ceux qui, par leur ferveur, leur goût d'être, nous ont signalé le court-circuit essentiel qui fait sauter les plombs d'une conscience ménagée au profit d'un dérèglement absolu et salutaire des sens, pour reprendre l'inusable Rimbaud. Silhouette géniale, Max Jacob a traversé la scène de ce temps qui nous est imparti sans jamais perdre de vue, mais il s'agit d'une vue démentielle. Le point exclusif d'où l'impossibilité d'être se confond avec la multitude de masques qu'implique ce néant qui nous caractérise. Il a mimé le geste humain qui est de pitié, autant par dérision que par curiosité, en clown parfois sublime, en homme désespéré, de corps et d'âme, mais nerveusement incapable de ne pas assumer tous les travers électriques d'une condition qu'on a pris l'habitude d'appeler humaine, et qui trop souvent n'est que l'horrifiante caricature d'une existence dont nous gardons la nostalgie, sans pouvoir autre chose pour en récupérer le diamant perdu qu'enchanter l'absence et l'espoir. Max Jacob avait le langage à sa disposition.
Merci, Georges. Nous allons conclure en disant que Max Jacob, Georges Perros, et j'ajoute Armand Robin, puisque j'ai évoqué sa figure, ce sont des piouères, des lettres. Mais des funambules, comme j'ai dit, mais souvent des funambules dont le regard reste rivé sur le sol et la performance n'en est que plus remarquable. Performance à portée d'homme. Malade, se sachant gravement malade, Perros écrivait des lettres, toujours à ses amis, et il a terminé par cette formule, ce calembour tristement jovial que nous tous, peut-être, pourrons, peut-être un jour ou l'autre, utiliser, reprendre à notre compte. La fin de moi est difficile. Et il écrit moi, M-O-I. La fin de moi est difficile. Et je crois que effectivement, quand on commence à entendre le crissement des roues de la charrette de l'Ankou, l'Ankou, la mort en breton, c'est une formule tout à fait vanne. Voilà, et bien on peut remercier Georges Perros d'avoir permis cette rencontre autour de son œuvre très protéiforme, hein, très fragmentaire, gnomique, mais ces tranches de vie que je trouve extrêmement intéressantes. Voilà, merci beaucoup. Alors, avant qu'il y ait quelques questions auxquelles je pourrais répondre ou pas, j'ai utilisé le confinement pour faire ce que j'appelle, j'ai commis deux romans policiers poético-littéraires. Alors je les vends pas, je les offre, hein, j'en ai deux. Hein. Donc vous réfléchissez si ça vous intéresse, je vous les remets, j'en ai deux. Je crois que Béatrice l'a lu, Eliane l'a lu, n'est-ce pas? Et alors je les donne parce que il y a, alors c'est très littéraire, c'est très policier, mais il y a la figure de Georges Perros qui est liée à un des crimes, la figure de Georges Perros dans le cimetière marin, n'est-ce pas? Donc nous sommes en complément de ceci. Donc si deux d'entre vous
Il y a des chapitres impressionnants sur le sport.
On va les tirer au sort. Ah oui, il y a tout. Il y a le sport, il y a le motoball, qu'est-ce que c'est aussi? Ah oui, le MMA. Vous savez, quand ils se battent dans les cages. Je suis très éclectique, n'est-ce pas? Mais il y a de la littérature aussi. Il y a Carton jaune à Roscoff parce que Tristan Corbière était de Roscoff. Et vous savez qu'il a écrit son œuvre Les Amours jaunes. Comme on dit, jaune cocu. Syndicat jaune, c'est très sarcastique, les amours jaunes. Voilà, donc je tiens à votre disposition. Vous battez pas, hein, mais j'ai mis mon adresse courriel si vous voulez faire un petit contact après ça. Voilà. Question.
Non, d'abord je voulais vous remercier au nom de tout le cercle Aliénor pour cette passionnante causerie, de nous marquer que le feu là pour que ce fût parfaitement intime.
Ah oui.
Mais vraiment c'était passionnant. et merci parce qu'on se rend compte que ce personnage si original qu'était Perros avait comme et si dit un chiffonnier génial oui. Qui la notion de chiffonnier pourrait sembler induire un personnage qui s'éparpille un petit peu, alors qu'en fait il y a un fil directeur, oui, une cohérence dans la lutte contre cette conspiration spirituelle qui est notre société.
Oui, absolument, absolument. Mais absolument. Et ça nous touche parce que quand on voit bon, le texte de Robin, mais même quand il dénonce la médiatisation de cette pauvre femme, etc.
C'est ça. C'est quoi le texte de Robin?
Ah, le texte de Robin, je sais de quel ouvrage, oui, de quel ouvrage, oui, c'est très beau. Je pense que certains le connaissaient. Oui, tu vois, mon épouse m'a dit tout à l'heure, tu l'avais déjà lu.
Je l'ai trouvé dans la grosse anthologie d'Elvaille, quand même.
Oui.
Le poème de Robin.
Ça, oui, écoutez, je ne sais plus exactement, mais il est de 52, hein, 52. Vous savez, bon, je vais ouvrir sur Robin, mais Robin, il parlait des dizaines de langues, vous savez, vous êtes au courant, et il écoutait sur ondes courtes les radios de l'Est en particulier, et il rédigeait des notes, alors sur les pays hongrois, et qu'il y avait Missa Fertrager était abonné, le Vatican était abonné, il vendait cher d'ailleurs, hein, et il avait été faire un voyage en URSS, et il s'était aperçu que c'était pas le paradis. Quoi. Donc il a été sur la liste noire des écrivains du CNE à la Libération. Et il était très très fier en disant bon, alors lui aussi c'est entre guillemets un marginal, c'est un maudit, enfin bon, c'est quelqu'un. Et c'est des gens qui nous manquent honnêtement. Hein, c'est bon de dire la littérature nous manque, mais c'est vrai. Surtout quand j'ai commencé par ça, n'est-ce pas le sur le lavage mental, n'est-ce pas la première formule quoi. C'est
le fait. Une question à vous poser.
Oui.
Moi je ne connais pas cet auteur, j'ai découvert là. Est-ce que vous diriez que c'est un anarchiste de droite ?
Non. Pas de droite. Alors pas de droite.
C'est une question.
Oui, non, mais c'est... Oui, non, pas de droite. Pas de droite. Oui, non, mais très bonne formule. C'est vrai que souvent on en dit quand les gens sont un peu bon. Et puis alors on dit il est anarchiste de droite. Non, mais c'est une très bonne question. Mais non, il n'est pas de droite. Mais vous avez compris, c'est.
Pour moi, il n'y avait pas de connotation pour l'instant.
Non. Mais je pense que c'est pas quelqu'un qui voulait en tout cas. Non, il n'était pas anarchiste.
Femmes, tout ça, c'est pour ça.
Oui, alors je vais vous dire franchement, il est d'une misogynie. Il est de. Il dit. Super, tant pis. Hein, toute femme vous en veut de l'avoir dépucelé, et encore tout juste si on l'épouse. Enfin, oui, c'est une très très. C'est une époque, c'est un personnage. Personne n'est parfait, exactement. C'est comme à la fin de certains Lame Show. Personne n'est parfait. Bon. Mais. Et alors ça, j'ai plutôt quand même. Des choses gentilles, enfin bon, mais c'est une époque, et ça je le défends pas du tout. Perros, qui avait un caractère, paraît-il, n'était pas facile. D'ailleurs, il savait qu'il était pessimiste, qu'il râlait beaucoup, etc. Il n'était pas d'un abord très très urbain, n'est-ce pas? En même temps, vous avez le type de société, quoi. Le proviseur dans les années 70, enfin, c'est le délire aussi. Enfin, même en reprenant l'époque, il faut pas. Et je sais pas avec qui j'en parlais tout à l'heure. En attendant un peu, il y a parfois, je crois que c'est avec vous, il y a parfois, à la fois, on est complètement écartelé, ce type de résurgence, et puis à la fois, on a une progressivité de mœurs tout à fait étonnante, mais il croit dans la société, là. Question à poser ? Non ? Ben sinon, vous avez la collection Carto. Alors, il a vraiment vécu chichement, sa famille, très aimée, et puis bon, et comme les artistes, il a, de manière posthume, on en parle, et puis là, c'est gros ouvrage, n'est-ce pas, qui est là, de Georges Perros, et à son œuvre complète. Et il a eu beaucoup, beaucoup d'amitié, je vous dis, Gérard Philippe là, et Anne-Philippe, Brice Parrain. Le gros problème, c'est qu'il n'avait pas fait d'études, le théâtre n'a pas marché, ça. Il était quand même à ce niveau-là, marginal socialement, quoi. Il avait du mal à vivre, tout simplement. Madame avait dit qu'il avait été.
De là à refuser un prix.
Ah ben oui, je suis d'accord, oui, oui. Non, mais c'est vrai, oui, le prix. Et c'était Edern Allier qui était le directeur de l'Idiot International à un moment, hein, c'est ça, hein.
Oui.
Il était breton, Edern Allier. Et donc, oui, donc, je suis d'accord. Mais il était cabochard, quoi. Hein. Il était cabochard, il avait. Oui.
Bon, bah écoutez,
voilà, je suis content d'avoir parlé avec vous parce qu'on ne s'est pas vu, on a pris un peu le rythme.
Alors, dans mes remerciements, j'aurais dû aussi vous remercier, Christian, d'avoir patienté parce que cette conférence a été reportée, je crois, trois fois.
Oui, trois fois, non, mais ce n'est pas le problème. Voilà. Elle était prête, mais bon.
Merci.
Vous en prie.
Et puis j'ai aussi un remerciement. C'est pour cette magnifique cravate dont vous nous honorez. Ah, vraiment.
Alors, cette cravate, j'ai eu des compliments entrés. Et de toute façon, j'ai toujours dit, même si je suis nul, j'aurai ma cravate, n'est-ce pas? Et donc, je crois que quand j'étais jeune, j'avais lu un livre très très dur d'un écrivain qui était médecin, André Soubiran. Ça me dit quelque chose? Les hommes en blanc. Alors, ah oui, mais ça date. Bon, la femme et tout. Mais j'ai été frappé. Il y a un certain Chavas, c'est un héros du roman. Alors, c'est vraiment l'étudiant déconneur qui va réussir. Il fait toutes les Sorbonne et il dit, toute façon, pour être un bon médecin, look, connaissance médicale 1%, look 99%. Mais je crois que ça m'avait frappé à vie, j'avais 15 ans quand j'ai lu ça. Mais je crois que, bon, ça. Mais merci pour la cravate, hein. Bon, je ne vous dirai pas où je l'ai trouvée parce qu'il n'y en a qu'un exemplaire. Mais je le mets à chaque fois que je fais une petite causerie, ma cravate.
Elle est belle, jolie, hein.
Ah, n'est-ce pas, c'est ma cravate.
Ça entre dans l'histoire.
Et ouais, quand je ne serai plus là, quand l'encou sera passé, on dira. Tu te rappelles de Christian Pelletier avec la cravate?
Je vais prendre un gros plan de la cravate.
Elle va prendre un gros plan de la cravate. Non, mais écoutez, c'est la gloire et la révolution, comme dirait Max Jacob. Il y a un poème qui s'appelle Gloire et Révolution.
Non, je vais prendre.
Allez-y, le suivant.
Je ne prends pas que la cravate.
Non, mais voilà. Si je fais des causistes, c'est que je suis cabotin. Merci.
Voilà, alors sinon la prochaine séance sera le 11 décembre. Merci. Et ce sera la remise des prix 2020 et 2021 à Michel Diaz pour Le Verger abandonné et à Nicole Ardouin pour Lilith ou l'amour du maudite. Voilà. Et d'ici là, portez-vous bien.
Ben, on va espérer. On espère qu'on pourra venir le 11 décembre en plus parce que.
Vous y croyez pas? De pessimiste?
Oui, moi je suis pessimiste.
Oui, j'ai entendu tout à l'heure, vous m'avez raconté que à partir du 15, on ne pourrait plus sortir.
Non, mais je ne savais pas, moi
je
n'ai pas...
Je me suis fait vacciner pour pouvoir être là ce soir. Tardivement, mais si je peux le conférencier, le causeur, il ne peut pas rentrer chez Lip, donc je ne suis pas au complotiste ni rien, mais je suis pas... Je suis un peu comme Perros, je suis un peu à côté
de... Dernière question, je voulais vous demander, là, vous avez parlé de cet article que vous avez rédigé sur Perros,
il était pour une revue qui s'appelle Le CRAM, dont j'étais le centre de réflexion sur les auteurs méconnus. Vaste programme, quand on aurait dit De Gaulle, l'auteur méconnu, le CRAM.
Il est publié déjà?
Oui, j'ai publié, oui. C'est juste un petit article, c'est pas... Moi, je ne suis pas monsieur... spécialiste. Hein. Vous connaissez, je crois, vous voyez.
Thierry Giliboff. Hein.
Oui, vous connaissiez.
Oui,
oui, mais moi, je tenais à ce que ce soit.
Non, mais c'est gentil. Vous n'avez pas été déçu, ça va.
Je vous ai félicité.
Merci. C'était ça. Mais c'est pas ce que je